La Belle Époque, 1880-1914, une modernité propriétariste et inégalitaire. Ces résultats sont essentiels car ils montrent la modernité de ce phénomène de hausse tendancielle de la concentration de la propriété en France et à Paris au cours du 19e et au début du 20e siècle, en particulier à la Belle Époque. En contemplant cette période d'un peu loin, et en utilisant les lunettes déformantes en vigueur en ce début du XXIe siècle, âge de l'économie digitale, des start-up et de l'innovation sans limite, certains pourraient être tentés de voir dans la société hyper inégalitaire d'avant 1914 le résultat d'un monde ancien, révolu, statique, un monde dominé par de paisibles domaines terriens et des biens immobiliers, un monde sans rapport avec celui d'aujourd'hui, réputé beaucoup plus dynamique et méritocratique. Rien ne serait plus faux. En réalité, les patrimoines de la Belle Époque n'ont rien à voir avec ceux de l'Ancien Régime, ni même avec ceux du père Goriot, de César Birotteau ou des banquiers parisiens des années 1820-1830 décrits par Balzac, qui par ailleurs n'avaient eux-mêmes rien de statique. En réalité, le capital n'est jamais paisible, pas même au XVIIIe siècle, où la société connaît un fort développement démographique, agricole et commercial, et un renouvellement important des élites. Le monde de Balzac n'est pas plus calme, bien au contraire. Si Goriot parvient à faire fortune dans les pâtes et les grains, c'est parce qu'il n'a pas son pareil pour dénicher les meilleures farines, perfectionner les techniques de production, organiser les réseaux de distribution et les entrepôts, de façon que les bons produits soient livrés au bon endroit, au bon moment. En 1821, sur son lit de mort, il imagine encore de juteuses stratégies d'investissement à Odessa, sur les bords de la mer Noire. Que la propriété prenne la forme des fabriques et des entrepôts de 1800 ou de la grande industrie et de la haute finance de 1900, le fait central est qu'elle est toujours en perpétuel renouvellement et en même temps qu'elle tend toujours à se concentrer sans limite. César Birotteau, autre personnage balzacien emblématique de la société propriétariste de l'époque, est quant à lui l'inventeur génial de parfums et de produits de beauté qui, d'après Balzac, font fureur à Paris en 1818. Le romancier ne pouvait pas se douter que près d'un siècle plus tard, en 1907, également à Paris, le chimiste Eugène Schuller allait mettre au point de fort utiles teintures pour cheveux, initialement dénommées L'Oréal, du nom d'une coiffure féminine à la mode à l'époque rappelant une auréole. Des produits qui font furieusement penser à ceux de Birotteau et qui, pour le coup, conduisirent à la création de la société L'Oréal, compagnie qui, en 2019, est toujours le leader mondial des cosmétiques. Birotteau prit une autre route. Sa femme voulut le convaincre de réinvestir les profits de la parfumerie dans de paisibles terres agricoles et de solides rentes d'État, comme le fit Goriot en quittant les affaires pour marier ses filles. Mais rien n'y fit. César entreprit de tripler la mise en se lançant dans une audacieuse opération de promotion immobilière dans le quartier de la Madeleine, en plein essor autour de 1820. Il finira ruiné, ce qui au passage vient nous rappeler que les investissements dans la pierre n'ont rien de particulièrement tranquille. D'autres audacieux promoteurs eurent plus de succès, à l'image de Donald Trump, qui, après avoir mis son nom sur des tours de verre à New York et à Chicago à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, partit occuper la Maison Blanche en 2016. Quant au monde des années 1880-1914, il s'agit véritablement d'un univers en changement perpétuel, où l'on invente en quelques décennies l'automobile, l'électricité, le transatlantique, le télégraphe, la radio. Il s'agit là d'innovations dont la portée économique et sociale est largement aussi importante que l'invention de Facebook, d'Amazon ou d'Uber. Ce point est capital, car il montre que l'on ne peut pas renvoyer la société hyper inégalitaire d'avant 1914 à un monde ancien et révolu, sans rapport avec le monde actuel. En réalité, la Belle Époque ressemble par bien des aspects au monde du début du XXIe siècle, même s'il nous faudra préciser certaines différences essentielles. Il s'agit également d'un monde qui se caractérise par la modernité de ses infrastructures financières et de ses modes de détention. Il faut par exemple attendre l'extrême fin du XXe siècle et le début du XXIe pour retrouver les niveaux de capitalisation boursière observés à Paris et Londres à la veille de 1914, relativement à la production ou au revenu national. Et nous verrons que l'ampleur des placements financiers internationaux, alors détenus par les propriétaires français et britanniques, n'a à ce jour jamais été égalée, toujours relativement à une année de production ou de revenus, ce qui est la façon la moins absurde de faire ce type de comparaison historique. La Belle Époque, tout particulièrement à Paris, incarne la modernité de la première grande période de mondialisation financière et commerciale que le monde a connue, avant celle qui a commencé dans les dernières décennies du XXe siècle. Il s'agit pourtant, dans le même temps, d'un monde violemment inégalitaire, où 70% de la population meurt sans aucun bien et où 1% des défunts détient près de 70% de tout ce qu'il y a à posséder. La concentration de la propriété est sensiblement plus forte à Paris en 1900-1914 que ce qu'elle était à l'époque du père Goriot et de Birotteau, autour de 1810-1820, et elle apparaît plus extrême encore que ce qu'elle était dans les années 1780, à la veille de la Révolution. Il convient ici de rappeler qu'il est difficile d'estimer précisément la répartition des patrimoines avant 1789. D'une part, car nous ne disposons pas des mêmes sources successorales, et d'autre part, et plus généralement car la notion même de propriété a changé, les privilèges juridictionnels ont disparu, et plus généralement la distinction entre droit de propriété et pouvoir régalien s'est durcie. En utilisant les estimations disponibles sur les redistributions opérées sous la Révolution, on peut toutefois considérer que la part des propriétés de toute nature, détenues par le centile supérieur à la veille de la Révolution, était à peine plus élevée qu'en 1800-1810 et sensiblement plus faible qu'à la Belle Époque, voire graphique 4.1 sur la dérive inégalitaire propriétariste en France au XIXe siècle. En tout état de cause, compte tenu des niveaux extrêmes de concentration observés en 1900-1914, avec plus de 90% des biens détenus par le décile supérieur à Paris, dont près de 70% par le centile supérieur, il est matériellement difficile d'imaginer un niveau plus élevé sous l'Ancien Régime, quelles que soient les limites des sources. Le fait que la concentration de la propriété puisse atteindre un niveau aussi élevé et suivre une progression aussi forte en 1880-1914, un siècle après l'abolition des privilèges de 1789, est un résultat qui interroge, et en particulier qui pose des questions pour l'avenir et l'analyse des évolutions en cours à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Il s'agit d'une découverte qui m'a beaucoup marqué, comme chercheur et comme citoyen, et à laquelle nous ne nous attendions pas, ou tout du moins pas dans de telles proportions, quand nous nous sommes lancés dans cette recherche dans les archives successorales, d'autant plus que ce n'est pas ainsi qu'une bonne partie des contemporains décrivaient la société française de la Belle Époque. En particulier, les élites politiques et économiques de la Troisième République aimaient décrire la France comme un pays de petits propriétaires, un pays rendu à tout jamais profondément égalitaire par la Révolution française. De fait, les privilèges fiscaux et juridictionnels de la noblesse et du clergé ont bien été abolis par la Révolution et ne réapparaîtront pas par la suite, pas même lors de la Restauration de 1815, qui continua d'appliquer le système fiscal légué par la Révolution avec les mêmes règles pour tous. Mais cela n'empêche pas la concentration de la propriété et du pouvoir économique et financier de s'établir au début du XXe siècle à un niveau encore plus élevé que sous l'Ancien Régime, ce qui n'est pas du tout ce à quoi un certain optimisme des Lumières avait préparé les esprits. On repense par exemple aux propos de Condorcet, quand il affirmait, en 1794, que « les fortunes tendent naturellement à l'égalité, dès lors que l'on supprime les moyens factices de les perpétuer et que l'on établit la liberté du commerce et de l'industrie ». Entre 1880 et 1914, même si la réalité montre de multiples signes suggérant que cette marche en avant vers l'égalité n'est plus d'actualité depuis longtemps, une bonne partie des élites républicaines continue de tenir un discours peu différent. Le système fiscal en France, de 1800 à 1914, l'accumulation en paix. Comment expliquer la dérive inégalitaire de la période 1800-1914, puis la réduction des inégalités qui a eu lieu au cours du XXe siècle? Une nouvelle dérive inégalitaire, d'une nature comparable, est-elle en route depuis les années 1980-1990 et comment faire pour s'en prévenir en s'appuyant sur les leçons de l'histoire? Nous aurons amplement l'occasion de revenir sur ces questions en particulier quand nous examinerons la crise des sociétés de propriétaires à la suite notamment des chocs des années 1914-1945 et des défis communistes et sociodémocrates. Pour le moment, je voudrais simplement insister sur le fait que la dérive inégalitaire de la période 1800-1914 a été grandement facilitée par le système fiscal mis en place sous la Révolution française et qui, dans ses grandes lignes, a continué de s'appliquer sans discontinuité majeure jusqu'en 1901 et, dans une large mesure, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le système adopté dans les années 1790 comportait deux composantes principales, d'une part un système de droits de mutation et d'autre part un ensemble de quatre contributions directes qui, du fait de leur exceptionnelle longévité, devaient finir par être appelées les quatre vieilles. Les droits de mutation, qui faisaient partie de la catégorie plus large de droits d'enregistrement, avaient pour fonction d'enregistrer les mutations de propriété, c'est-à-dire les changements d'identité des propriétaires. Ils furent définitivement mis en place par une loi de l'an 7, 1799. Les législateurs révolutionnaires prirent soin de distinguer les mutations à titre onéreux, c'est-à-dire les transferts de propriété effectués en échange d'argent ou d'autres titres de propriété, les ventes donc, et les mutations à titre gratuit, c'est-à-dire les transferts de propriété effectués sans contrepartie, catégorie qui comprenait les successions, dites mutations par décès, et les donations entre vivants. Les droits de mutation à titre onéreux prirent la suite des lots seigneuriaux d'Ancien Régime, ainsi que nous l'avons déjà évoqué, et continuent de peser aujourd'hui sur les transactions immobilières. S'agissant des transmissions successorales en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, le taux fut fixé en 1799 à un niveau extrêmement modéré, 1%. Il s'agissait en outre d'un impôt totalement proportionnel. Chaque succession était taxée au même taux de 1% dès le premier franc, quel que soit son montant, aussi élevé soit-il. Le taux proportionnel appliqué variait avec le degré de parenté. Le taux applicable aux héritiers en ligne collatérale, frères et sœurs, cousins, etc., et entre non-parents, était légèrement plus élevé qu'en ligne directe. Mais jamais avec le montant de la succession. De nombreux débats eurent lieu, en particulier à la suite de la Révolution de 1848, puis de nouveau dans les années 1870, après l'avènement de la Troisième République, au sujet de la possible mise en place d'un barème progressif ou d'un relèvement du taux applicable en ligne directe sans résultat. En 1872, une tentative fut ainsi faite de porter à 1,5% le taux applicable aux plus fortes transmissions patrimoniales entre parents et enfants. La réforme était modeste, mais la commission parlementaire et l'Assemblée refusèrent en des termes sans équivoque en invoquant le droit naturel des descendants directs. Quand un fils succède à son père, ce n'est pas à proprement parler une transmission de biens qui a eu lieu, ce n'est qu'une jouissance continuée, disaient les auteurs du Code civil. Cette doctrine serait, si elle était entendue dans un sens absolu, exclusive de tout impôt sur les successions en ligne directe. Elle commande du moins une extrême modération dans la fixation du droit. En l'occurrence, l'opinion majoritaire des députés de 1872 était qu'un taux de 1% satisfaisait à l'exigence d'extrême modération, mais qu'un taux de 1,5% violait ce principe. Pour nombre de députés, cela risquait d'enclencher une dangereuse escalade dans la course-poursuite à la redistribution, qui, si on y prenait garde, risquait de conduire à la remise en cause de la propriété privée et de sa transmission naturelle. Rétrospectivement, il est aisé de se moquer de ce conservatisme. Les taux appliqués aux successions les plus importantes atteignirent des niveaux beaucoup plus importants dans la plupart des pays occidentaux au XXe siècle, au moins 30%, 40%, voire parfois 70, 80% pendant des décennies, sans que cela mène ni à une dislocation de la société et du droit de propriété, ni à une baisse du dynamisme économique et de la croissance, bien au contraire. Il n'en reste pas moins que ces attitudes politiques exprimaient non seulement des intérêts, mais également une idéologie propriétariste plausible, ou tout du moins, qui avait des apparences suffisamment fortes de plausibilité. le point qui ressort très clairement de ces débats est cette idée du risque de l'escalade. L'objectif des droits de succession, aux yeux de la majorité des députés de l'époque, était d'enregistrer les biens et de protéger le droit de propriété, et en aucune façon de redistribuer les patrimoines ou de réduire les inégalités. Dès lors que l'on sortait de ce cadre et que l'on commençait à imposer les plus fortes successions en ligne directe à des taux substantiels, il existait un risque que cette boîte de Pandore de l'impôt progressif ne soit jamais refermée et que cette progressivité excessive et le chaos politique accompagnant ce mouvement finissent par nuire aux plus modestes et à la société dans son ensemble. Telle était, du moins, l'une des thèses permettant de justifier le conservatisme fiscal. Il faut aussi insister sur le fait que la mise en place des droits de mutation à partir des années 1790 est allée de pair avec le développement d'un impressionnant système de cadastres, de registres et de structures administratives permettant de garder la trace de tous les biens et de tous les changements de propriétaires. L'ampleur de la tâche était immense, d'autant plus que le nouveau droit de la propriété devait s'appliquer à tous, indépendamment des origines sociales, tout cela dans un pays de près de 30 millions d'habitants, de loin le plus peuplé d'Europe, et sur un vaste territoire, compte tenu des moyens de transport limités de l'époque. Cet ambitieux projet politique reposait sur une théorie du pouvoir et de la propriété qui l'était tout autant. La protection du droit de propriété par l'État centralisé devait permettre la prospérité économique, l'harmonie sociale et l'égalité de tous. Il ne fallait pas prendre le risque de tout gâcher par des lubies égalitaires, alors que le pays n'avait jamais été aussi prospère et que sa puissance rayonnait de par le monde. D'autres acteurs politiques, de plus en plus nombreux, défendaient cependant d'autres options, et en particulier la nécessité de mettre en place une politique volontariste de limitation des écarts de fortune et d'accès au patrimoine pour le plus grand nombre. Dès la fin du XVIIIe siècle, des propositions fiscales précises et ambitieuses avaient été formulées par Gralin, Lacoste ou Paine. Au cours du XIXe siècle, les nouvelles inégalités industrielles, de plus en plus visibles à partir des années 1830-1840, contribuèrent à légitimer encore davantage le besoin de redistribution. La constitution d'une coalition majoritaire sur ces questions de redistribution et de progressivité fiscale ne fut cependant pas chose facile. D'une part, car les premières décennies de la Troisième République et de l'application du suffrage universel en France furent sérieusement occupées par la question du régime républicain et de la place de l'Église, et d'autre part, car les classes rurales et paysannes, y compris lorsqu'elles n'étaient pas très riches, se méfiaient des éventuelles velléités des socialistes et du prolétariat urbain de vouloir s'en prendre à la propriété privée dans son ensemble, crainte qui était d'ailleurs loin d'être totalement infondée et que les plus riches ne manquaient pas d'attiser pour effrayer les plus modestes. La question de la progressivité fiscale n'a jamais eu et n'aura jamais l'évidence qu'on lui prête parfois. Il ne suffit pas que le suffrage universel jaillisse pour qu'un consensus majoritaire en découle comme par enchantement. Compte tenu de la multidimensionnalité du conflit politique et de la complexité des arguments en présence, les coalitions doivent être bâties et non présumées, et elles dépendent notamment des expériences historiques partagées et des dispositifs cognitifs mobilisés par les uns et les autres. Toujours est-il qu'il fallut attendre 1901 pour que le sacro-saint principe de la proportionnalité de l'impôt soit finalement mis à mal. L'impôt progressif sur les successions, établi par la loi du 25 février 1901, fut ainsi le premier grand impôt progressif voté en France, avant même la création de l'impôt progressif sur le revenu par la loi du 15 juillet 1914. De même que pour l'impôt sur le revenu, la création de l'impôt progressif sur les successions a donné lieu à de longs débats parlementaires. Et c'est le Sénat, plus conservateur car surreprésentant les campagnes et les notables, qui en retarda l'adoption. La progressivité de l'impôt successoral avait été votée par la Chambre des députés dès 1895. On notera au passage que ce n'est que depuis l'avènement de la Quatrième République, en 1946, que le Sénat a perdu son droit de veto et que le dernier mot revient aux députés élus au suffrage universel direct, ce qui a permis de débloquer nombre de législations sociales et fiscales. Encore faut-il préciser que les taux prévus par la loi de 1901 étaient extrêmement modestes. Le taux applicable en ligne directe était de 1% pour la majorité des transmissions, comme dans le régime d'impôt proportionnel, et il montait au maximum jusqu'à 2,5% pour les parts successorales supérieures à 1 million de francs par héritier, moins de 0,1% des héritages. Le taux le plus élevé fut porté à 5% en 1902, puis à 6,5% en 1910, afin de contribuer au financement de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, adoptée la même année. Même si ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que les taux applicables aux plus grandes fortunes atteignirent des niveaux plus substantiels, plusieurs dizaines de pourcents, et que la progressivité fiscale moderne se mit en place, on peut considérer qu'une étape décisive avait été franchie en 1901-1902, et peut-être davantage encore en 1910, car le fait de mettre explicitement en relation le renforcement de la progressivité successorale et le financement des retraites ouvrières exprimait une claire volonté de réduction globale des inégalités sociales. Pour résumer, l'impôt sur les successions n'a affecté que marginalement le processus d'accumulation et de transmission de fortunes importantes entre 1800 et 1914. La loi de 1901 marque toutefois un changement essentiel dans la philosophie fiscale en matière successorale avec l'introduction de la progressivité qui fit pleinement sentir ses effets à partir de l'entre-deux-guerres.